dans cette mélodie unique et irremplaçable qui vient de nos parents, se disait quelque chose qui allait bien au-delà de ce qu'ils articulaient clairement devant nous, de leurs mots de tous les jours. Car, vous le savez bien, dans la voix d'un être humain s'inscrit autre chose, s'inscrit plus que l'expression banale de l'instant. La voix d'un être humain implique tout ce qu'il ne dit pas et qu'une vie entière ne suffirait pas à manifester. Ce qui est tu et qui résonne pourtant dans l'instant, à travers cette voix, c'est un murmure, une sorte de confidence non connue et qui perdure au-delà de toute affirmation et qui pourtant précédait toute affirmation. Dans la voix des parents, des grands-parents, des voisins, des amis, des autres enfants, choyés ou rivaux que nous avons connus dans l'enfance, bref, dans la voix de tout le peuple qui nous entourait et qui nous apportait, quelque chose de caché se manifeste en sourdine. Ce quelque chose, c'est la lueur secrète et profonde d'un commencement qui serait présent avant tout commencement, d'un avant-commencement, si l'on peut dire, dont nous sommes vraiment les héritiers et les dépositaires. Or, dans la Kabbale juive et aussi dans l'enseignement exotérique du Talmud, on souligne l'importance des lettres consonnes de l'alphabet hébreu. Ce sont 22 lettres de base. Et ces 22 lettres, selon la tradition de la parabole midrashique, elles préexistent au monde matériel, au cosmos, qui n'en serait qu'une expression, au sens littéral de ce mot « expression », une façon de les mettre dans l'espace extérieur. C'est à partir de ces lettres qu'Elohim, le dieu biblique de la création, Elohim, retrait par sa propre volonté dans l'abîme du non-être, a fait surgir le cosmos où nous nous débattons, nous, parmi les autres créatures. En même temps, hors de sa propre pensée, hors de sa lumière ouvrière du tout, Dieu a fait, comme on dit dans la tradition, il a fait monter la révélation biblique elle-même, que nous saisissons, si nous savons l'hébreu, dans son contexte historique spécifique et dans sa langue spécifique. Ainsi, selon l'enseignement des sages, le texte de la Bible, accompagné de son commentaire ininterrompu au cours des millénaires de l'histoire d'Israël, ce texte sort de la même pensée divine que le monde physique lui-même. Cette matrice de l'être, où Dieu puise pour fabriquer le monde avec ce qu'il contient, il en tisse le texte saint, le tissu verbal du Pentateuque, de la Torah, des prophètes et des autres écrits inspirés qui constituent ensemble le corpus biblique. Tout cela sort comme le cosmos matériel lui-même, le temps et l'espace, et ce qu'il contient, des 22 lettres. C'est donc d'une même source, invisible mais présente, que surgiront, sans rupture dans l'espace ni dans le temps, et la parole du décalogue, mettons, dont j'ai parlé tantôt, et l'univers matériel, le cosmos biologique, spirituel, dont nous faisons partie. Ceci, c'est un enseignement fondamental de la Kabbale, du Zohar. Mais alors, reprenons le thème de la parole reçue dans l'enfance, la lumière d'engendrement première dont j'ai parlé, celle qui est enfouie dans une demeure charnelle, dans un corps aux fondations jetées au plus profond de nous-mêmes. Eh bien, les mots reçus dans l'enfance sont à la fois les porteurs de cette lumière germinative, les récepteurs permanents et les échos dans l'avenir et dans la mémoire de chacun. Même déchiré, même broyé au cours de notre histoire personnelle, les mots de l'enfance et ce qui se cache en eux demeurent en nous les véhicules authentiques et directs de la transcendance. La lettre fondatrice des 22 éléments de l'alphabet hébreu, la lettre Aleph, la première, possède la valeur numérique 1. Vous savez que l'unicité de Dieu, c'est le principe même de la révélation du Sinaï. Le premier commandement du Décalogue, donné au Sinaï, justement, et qui proclame l'unité de la personne divine, le premier commandement commence par un Aleph. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Dieu, au Sinaï, s'expose, ou s'exprime, si l'on peut dire, au peuple hébreu réuni autour de la montagne flamboyante, et il lui donne à écouter son nom intime, en hébreu, Anochi Hashem. Anochi Adonai, mettons, puisque le nom du tétragramme n'est pas prononçable. Mais c'est précédé par le mot Anochi, qui est un pronom personnel à la première personne, mais c'est un moi de majesté. Moi-même, Anochi veut dire moi-même. Moi-même, donc, le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage, etc. Que Dieu fasse voir aux hommes le visage sévère d'Élohim, juge, roi, souverain du monde créé, ou bien sa face de charité, l'intériorité de sa tendresse et de sa miséricorde et de sa bonté, qui est comme l'amande dans l'écale du fruit entier, eh bien, le Dieu de la Bible, qu'il soit vu sous ces deux aspects, eh bien, la lettre Aleph, ici, désigne simultanément ces deux visages. Lorsqu'il dit Anochi Hashem, Anochi Adonai, le Aleph de Anochi, c'est les deux visages en même temps. Elohim aussi bien que Adonai, le tétragramme. C'est Dieu sous ces deux aspects, confondu au sein de l'unité divine. Or, en hébreu, cette lettre initiale du Décalogue, du premier commandement du Décalogue, qui est la première lettre du mot Anochi, moi-même, cette lettre initiale en hébreu est muette. Et si je dis Anochi, ce n'est pas parce que l'aleph par lequel commence ce mot est prononcé comme un A. Le A est lié à un point voyelle qui est accroché à l'aleph, qui lui est surajouté. En réalité, l'aleph lui-même est muet. On ne peut pas le sonner. On ne peut pas prononcer l'aleph. Pour dire la lettre aleph, on ouvre la bouche. Et c'est tout. Il n'y a pas de sonorisation. La sonorisation est ajoutée. Ça, c'est très important et très étrange. L'aleph, la lettre qui est à la base de la création du monde, aussi bien que de la révélation biblique au Sinaï, reste à jamais silencieux dans ce monde-ci. On peut, comme je vous l'ai dit, y attacher, lui accrocher des valeurs vocaliques variées. Cela peut devenir A, ça peut devenir O, ou parfois I même. Mais ça, ce sont des ajouts. L'aleph en lui-même ne résonne pas. Il est en retrait, il vit en retrait, dans le non-dit. Il subsiste comme ça par lui-même, avant et après toute parole proférable. Il est donc en soi mélodie cachée, mystérieuse, de la langue hébraïque, avant qu'elle ne sonne. Or, mélodie de la langue hébraïque, cela veut dire, par voie de conséquence, mélodie mystérieuse de toute la révélation biblique qui s'exprime en hébreu, sous-jacent à la parole prophétique et aussi à la loi de Moïse, manifeste, comme elle est écrite. L'aleph, inaudible à l'oreille externe de l'homme, résonne ou flamboie dans le silence. Et c'est cet aleph qui constitue le soubassement muet mais vivant de la parole prophétique. Ainsi, dans la tradition, tout ce qui est dit et tout ce qui sort dans le monde, ou ce qui monte dans le monde, pour constituer ce monde dans le temps réel, dans l'espace réel, eh bien ce n'est là qu'émanation fragmentaire, ce n'est que la multiplicité transitoire qui émerge de l'aleph planté dans ses profondeurs indicibles, insondables. L'aleph, parce qu'on ne peut parler de cela qu'à travers des métaphores, l'aleph, c'est la roche souterraine, c'est la pierre angulaire de l'édifice du monde physique, comme de la révélation religieuse et de l'écriture hébraïque, avec un petit E ou un grand E, l'écriture simple, qui les sous-tend. Mais c'est de ce foyer obscur qu'est issu le rayonnement étrange, doux et puissant de la lumière originelle, de celle qui, dans le texte même de la Genèse, vibre ou émerge avant la création du soleil et de la lune. C'est la lumière du premier jour, ou même, pour dire vrai, la lumière d'avant le premier jour, qui le premier jour de la création fait irruption dans ce monde par le commandement que la lumière soit. Lumière qui est avant celle du soleil et de la lune, puisque le soleil et la lune sont créés, si je ne me trompe, le troisième jour. Eh bien, nous avons partie liée avec tout cela. La lumière secrète qui nous traverse, qui nous suscite dès l'instant de notre conception dans le ventre de notre mère, qui nous fait chacun homme à part entière, aussitôt qu'habite en nous cet éclair divin, cette lueur secrète se réfléchit d'abord dans notre oreille embryonnaire, dans la tradition. La lumière est d'abord perçue par l'oreille embryonnaire. Ensuite, après la naissance, elle va se loger à l'intérieur des premières paroles que nous recevons des lèvres de nos parents ou de ceux qui nous soignent, qui s'occupent de nous, des proches, les paroles, qui sait, selon certains médecins actuels, ces paroles que nous avons déjà perçues peut-être au stade fœtal dans le ventre de la mère. Je pense à Thomas et son enseignement. Bon, c'est une suggestion, une hypothèse. Voilà aussi ce que désigne à mes yeux cette métaphore si riche, si prégnante de l'aleph lumineux. La clarté germinale qui précède la révélation, la mélodie dont nous sommes nous-mêmes directement issus dans ce monde, se trouve enclose à jamais au cours d'une existence à l'intérieur de la parole reçue dans notre première enfance. Donc, silencieux, voilé, invisible à l'oreille, la lettre Aleph ne doit pas être dite et ne peut pas être dite. Elle ne sera donc ni jouée, comme on joue la comédie, ni manipulée sur la scène de ce monde. Mais l'Aleph, s'il ne peut pas être dit, il peut être et il doit être aimé avant tout pouvoir de dire. Après tout ce qui aura été dit sur ces fondations silencieuses. Muet, il est hors de portée. Il échappe ainsi à notre ambition, à notre saisie orale. Il élude notre rapacité conquérante et assimilatrice, celle qui veut faire main basse sur tout le réel. Il y échappe, à jamais. Il règne dans le domaine du silence, ce domaine de silence qui est la matrice de la mélodie et du chant et du discours futur. Et c'est pourquoi nous lisons dans le psaume 65, par exemple, verset 1, « Pour toi, le silence est louange, Elohim dans Sion. » Ou bien dans le psaume 62, verset 2, dans la traduction de Chouraki, « Ah, en Elohim, fais silence, mon âme. » Car mon salut vient de lui. C'est donc du silence. Et d'Elohim, qui sont plus ou moins identifiés l'un à l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans la tradition chassidique du judaïsme polonais, la mystique juive polonaise et russe du 18e et du 19e siècle, le chant est considéré comme le support unique, plutôt que la parole. Le chant dans la gorge, est considéré comme le vrai support dont soient dignes la grandeur et la majesté du silence. C'est ce que pense, par exemple, un des plus grands maîtres du chassidisme polonais ou ukrainien de la fin du XVIIIe siècle, le célèbre Rabbi Nachman de Bratslav, le Rabbi de Bratslav. Pour lui, le chant est le silence manifesté. Lorsque le silence veut se manifester, c'est dans le chant. On appelle cela en hébreu nigun, nigun, mélodie. Le nigun sans fin et sans parole projette, constitue la bonne transition, si vous voulez, entre le monde inachevé du présent où nous vivons et la lumineuse réalité du monde à venir, du monde futur, du olam haba, comme on dit en hébreu, du monde eschatologique. C'est dans le nigun sans parole. Il y a là toute une tradition chez les chassidim, mais surtout chez ceux dans la secte des disciples du rabbi de Bratslav, qui existe encore. Ils chantent sans mots. Je dis cela en passant parce que c'est vraiment très intéressant, mais on peut aller plus loin et plus profondément encore. Dans la tradition liturgique juive commune, pas seulement chez les mystiques de la tradition chassidique, mais dans toute la liturgie juive, l'agonisant doit rendre l'âme en proférant l'unité divine, l'un, le un, le echad divin. Et le mot echad en hébreu commence par un alf. Là vous avez alf avec la sonorisation e, vous voyez. A, et je vous ai dit que ça peut prendre plusieurs sonorités, mais en soi l'alf est muet. Le mourant doit rendre l'âme en proférant le echad, l'unité de Dieu, qui correspond à la lettre Aleph, l'unité des nombres. Et cette initiale du mot echad résonne évidemment à la fin du premier verset de la célèbre prière, confession de foi d'Israël, le Shema Israël. Le premier verset du Shema Israël, qui est simplement une citation du Pentateuch, c'est un morceau du Pentateuch, finit par le mot Echad, c'est-à-dire avec un aleph, Echad. Selon une parabole talmudique célèbre, l'homme qui meurt oublie au moment de mourir tout ce qu'il a appris dans ce monde. Il oublie tout. Il oublie même le décalogue, il oublie même les 10 commandements, sans parler du reste de la Torah, il oublie tout cela, c'est comme effacé. Mais il reste quelque chose, selon cette tradition midrashique. Il lui restera dans la tombe un seul, entre guillemets, un seul compagnon d'éternité. Ce compagnon d'éternité, c'est la mélodie, c'est le nigun de la Torah. C'est la mélodie, la cantillation traditionnelle, des chapitres de la Torah, comme on les chante dans toutes les synagogues, dans tous les oratoires, tous les samedis matins, à l'office, puisque c'est le cœur même de l'office synagogal, la cantillation du chapitre hebdomadaire de la Torah, selon une musique qui est fixée, qui est extrêmement ancienne, les neumes en réalité. Eh bien, selon ce midrash, la seule chose que le mort garde dans sa conscience, c'est le nigun de la Torah, qui sera son compagnon d'éternité, comme il est dit, dans le sépulcre. Ce nigun, cette mélodie du Pentateuch qu'il a entendu chanter tout au long de son existence terrestre. Eh bien, ce nigun, évidemment, c'est la mélodie de l'un, c'est la mélodie de l'aleph, justement, de l'aleph dont va ressurgir dans la tradition, le multiple. De l'un ressurgira le multiple à l'heure de la résurrection des morts, lorsque les morts rappelés, réveillés, ressurgissent, c'est toute la multiplicité humaine qui ressurgit avec eux. Et à ce moment-là, l'alf engendrera de nouveau, comme dans ce monde, comme dans cette vie, la multiplicité de la parole, du chant et toutes les formes et les couleurs de ce monde. C'est cette espérance en l'aleph qui soulève dès maintenant au présent, mais en puissance, la dalle de l'âme, la dalle funéraire de l'âme, qui donne accès en nous à la rosée de la vie. Ainsi, c'est la profération de la prière Shema Israël à l'instant de l'agonie qui va introduire le mourant au nigoun de la lèvre, son compagnon d'éternité. Et c'est dans cette perspective, je crois, que nous comprenons mieux ces étranges versets, ces versets étonnants du livre de Job au chapitre 19, versets 25-27, que je lis dans une traduction assez bonne, assez fidèle, où Job dit, au milieu de tout son désespoir, tout à coup il dit, je sais, moi, que mon rédempteur, que mon défenseur, mon Goël, est vivant, qui, lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Après mon éveil, il me lèvera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que mes yeux regarderont ne détournera pas de moi son regard. Et mes reins en lui se consument d'attente. Fin de citation. Ça se comprend beaucoup mieux dans cette perspective que je viens de vous expliquer. Le noyau de feu vivant ou pulsant qui hante le nigoun, la mélodie indestructible de l'aleph, prendra dans l'âme juive, dans l'intimité de l'âme juive morte, la relève de l'unité divine qui est obscurcie par la nuit du tombeau. Il est dit dans le livre des Proverbes, il est dit de la femme forte, sa lampe ne s'éteint pas à travers la nuit. Cette femme forte, en hébreu dans le livre des Proverbes, s'appelle Eshet Chayil, la femme forte. Eshet, le nom en hébreu du mot Eshet, commence par un aleph, Eshet. Le Zohar nous rapporte comment Dieu, avant de se mettre à l'ouvrage pour créer le monde, bat d'abord le rappel des lettres fondatrices de l'alphabet hébreu. Il mobilise toutes les 22 lettres devant lui, il les appelle, en commençant par la dernière, la lettre fatidique, Tav, ou le Tao, Tav, qui est évidemment déjà lourde de la fin des temps. C'est la lettre de l'eschatologie. Il commence par la fin des temps, pour créer le début des temps. Mais dans le monde hébraïque, tout est toujours à l'envers, et Dieu aussi, bien sûr, il commence par la fin. Bon. Alors, pour des raisons diverses, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais que le Midrash, que la parabole talmudique détaille de façon merveilleuse, délicieuse, il les rejette l'une après l'autre. Chacune a un défaut, une imperfection, bref, aucune ne tient le coup, n'est-ce pas ? Elles sont déboutées, sauf les deux premières. Et en commençant par l'avant-dernière, ce serait la lettre Bet, le B, la lettre Bet. Et finalement, la dernière, qui est la première, la lettre Aleph. Donc, 2 et 1. Il va se servir des lettres qui valent B, c'est 2 en hébreu aussi. C'est la dualité. Et Aleph qui est 1. Mais l'Aleph était très modeste. Il s'était mis au dernier rang des candidates à la création du monde, très très modestement. Il dit à Aleph, et je cite en traduction, « Le Saint béni soit-il, dit à l'Aleph. » Aleph, Aleph, bien que ce soit la lettre Bet, 2, et le mot Bet, Bayit en hébreu veut dire maison, demeure, Bet. Alors il dit à Aleph, bien que ce soit la lettre Bet, la maison, dont je me servirai en réalité pour créer le monde, tu seras toi l'Aleph, la première de toutes les lettres, et je n'aurai d'unité, Dieu dit cela à l'Aleph, et je, moi, Dieu, je n'aurai d'unité qu'en toi. Voyez donc qu'il y a identification entre Dieu et l'Aleph. Il se retrouve dans son essence d'unité profonde dans la lettre Aleph, ce qui n'est pas une mince distinction, vous pouvez bien l'imaginer. Tu seras, dit Dieu, toi Aleph, tu seras la base de tous les calculs. En effet, là, l'unité, c'est la base de tous les calculs, de tout l'intellect, de toutes les mathématiques, de toute la pensée humaine et divine. Tu seras la base de tous les calculs et de tous les actes faits dans le monde. Et on ne saura trouver d'unité nulle part si c'était dans toi, la lettre Aleph. Notons en passant que Bet, la deuxième lettre, signe de la dualité, donc du conflit et de la guerre, et de la bisexualité aussi, entre autres. Elle est tout de même aussi, elle n'est pas seulement cela, elle est aussi en hébreu l'initiale de la bénédiction, beracha, beracha. Et le texte hébreu du livre de la Genèse, le premier verset, s'ouvre sur un bet redoublé et sur un aleph également redoublé. Bereshit, bara, de bet. En tout cas, là, le premier mot commence par un bet, Bereshit, dans un commencement. Hein. Bereshit, bara, créa, Elohim, et. Elohim commença par un aleph, et et est un mot qui commence également par un aleph. Et. Bon, c'est en passant. Nous lisons dans le Zohar. Lorsque Dieu veut créer le monde, on est toujours à ces histoires de ce qui se passe. Les maîtres rabbiniques pharisiens et les maîtres de la mystique juive, les kabbalistes, ont toujours été passionnés par ce qui se passe avant la création du monde. Ce qui se passe après, on le sait déjà. Hélas, on le sait déjà trop. Et puis c'est leur tournure d'esprit. Ce qui les intéresse particulièrement, c'est de savoir ce qu'il y a avant la création du monde. C'est en effet plus problématique, hein, de savoir, d'être dans le coup de ce qui se passe avant la création du monde. C'est ça qu'ils veulent savoir. Et alors voilà ce qu'on trouve dans le Zohar, au feuillet 90A, dans la première partie. Il, c'est-à-dire le Seigneur, voulut alors créer le ciel. Or, que fit-il ? Il scruta la lumière primordiale qui est en lui. C'est cette lumière d'avant la lune et le soleil et les étoiles. Il scruta en lui-même sa lumière primordiale et s'en enveloppa, créant ainsi les cieux selon les mots, psaume 104, verset 2, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. C'est très beau, mais on peut aller plus loin. Maintenant, nous revenons en Pologne, dans la deuxième partie, dans la première partie du XVIIIe siècle. Le fondateur du mouvement chassidique en Pologne, Rabbi Israël, qu'on appelle en général le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, du nom de Dieu, le Baal Shem Tov. Eh bien, à l'occasion de la fête juive traditionnelle de Simchat Torah, qu'on célèbre à la fin de la fête de Sukkot, de la fête des cabanes, des tabernacles en automne. Donc, Simchat Torah est une fête qui, comme son nom l'indique en hébreu, c'est la fête de la joie de la loi de Moïse. C'est une fête qui conclut le cycle des fêtes d'automne, donc la fête des tabernacles, c'est le jour qui suit la fête des tabernacles, et c'est une grande fête en l'honneur de la loi, où on danse et on chante et on boit, on mange en l'honneur des rouleaux de la loi. À l'occasion de cette fête de Simchat Torah, le Baal Shem Tov, donc le maître, le fondateur du chassidisme, dans toutes ses branches, qui a vécu entre 1700 et 1760, il donna l'enseignement suivant. Et entre parenthèses, j'ai cité tantôt le nom et un enseignement du Rabbi Nachman de Bratslav. Le Rabbi Nachman de Bratslav, qui a vécu à la fin du XVIIIe siècle et dans les premières années du XIXe, c'est l'arrière-petit-fils de celui-là. Donc le Baal Shem Tov, c'est l'arrière-grand-père du Rabbi Nachman de Bratslav. Alors le Baal Shem Tov donne l'enseignement suivant au moment de la fête de Simchat Torah. Dieu semble, et vous voyez d'où vient cet enseignement, je vous ai donné la clé dans le Zohar. Alors il dit ceci, Dieu s'enveloppa de lumière, c'est ce que nous allons apprendre, mais comment est-ce qu'il fait pour s'envelopper de lumière? Alors là, on va un peu plus loin. Il s'enveloppa de la lettre Aleph, donc s'envelopper de lumière, c'est la même chose que s'envelopper de la lettre Aleph, puis des 22 lettres, en fait des 21 autres lettres. Il créa par les lettres et en elles, les cieux et la terre, les êtres spirituels et les êtres matériels. La sagesse suprême demeure dans les lettres. Le saint béni soit-il. Vous savez que le mot homme en hébreu, c'est Adam. Il s'agit toujours de mots, n'est-ce pas ? ça ne se passe jamais comme ça dans l'abstrait, dans la tradition. Il s'agit de mots, de lettres, de choses qu'on peut saisir, de formes. Adam, le mot Adam, Adam, commence, comme vous l'entendez, par un A, donc par un Aleph en hébreu. L'homme sans Dieu n'est pas réellement un homme, dit le rabbi de Metzrich. Il n'est pas Adam, mais seulement, enlevé à Adam, reste, mais il est seulement, dit-il, dame, le sang. Le mot dame en hébreu veut dire sang. Il lui manque l'Aleph qui est Dieu lui-même, le maître de l'univers. Aloufo shel olam. Aloufo shel olam. C'est seulement quand l'Aleph et le dame se rencontrent, dit ce maître, que l'homme devient homme et mérite d'être appelé homme. Avant, il n'est pas homme, il est juste du sang. Cela signifie qu'à défaut de l'Aleph, ce silence prégnant de la louange à venir qui germe dans notre âme nocturne, dans le silence, à défaut de l'Aleph, l'homme demeure ce qu'il est, un animal féroce et sanguinaire. Et notre époque, n'est-ce pas, en sait quelque chose. L'Aleph, pierre de fondation patiente, précède le Bet, la lettre seconde, B, Bet, qui est le lieu du conflit amoureux entre l'homme et la femme. Le Bet, qui est la maison mère du commencement des êtres déchirés dans ce monde changeant, instable, le monde des deux, où il y a toujours deux. La maison elle-même, Baït, qui est ordonnée et limitée pour éviter l'écroulement du monde, la maison se construit et se défait dans nos vies, au rythme concret mais chaotique de la création temporelle dans laquelle nous vivons, celle que nous connaissons dans notre vie quotidienne. Mais toujours derrière nous, en nous, à l'arrière si vous voulez, enfoui quelque part sous la maison, notre corps aussi c'est notre maison, enfoui à l'arrière quelque part, dans le corps, sous le corps, il y a dans le tréfonds le feu doux, le feu de braise voilé de l'Aleph qui réconcilie toutes nos guerres. Je fais une petite digression là. Si les juifs, les chrétiens et les musulmans consentaient à vouloir accueillir ensemble la lumière vibrante de l'Aleph silencieux sous-jacent à la Torah et aux évangiles et au Coran, s'ils consentaient à accueillir cette clarté qui les porte tous, mais qui toujours leur échappe, alors on pourrait peut-être commencer, peut-être, à s'entendre, en s'écoutant au plus profond de nos racines communes. On pourrait peut-être commencer à se reconnaître les uns les autres et à engendrer ensemble cette paix, ce shalom, qui en hébreu n'est pas seulement paix, mais plénitude, shlemut, ce shalom qui en chacun de nous est la plénitude discrète de la présence méconnue. Je vais vous raconter un autre midrash très beau, une parabole talmudique très belle, et mystique d'ailleurs. Ce midrash, cette parabole, nous apprend qu'au paradis, la peau d'Adam et d'Ève n'était pas faite de peau. Elle était faite de lumière transparente. C'est-à-dire que comme leurs yeux, le reste de leur corps était transparent. Le mot hébreu qui désigne la lumière, c'est or, qui s'écrit Aleph, Vav, Resh. Or, l'Aleph est silencieux, le Vav est prononcé O, et le Resh, c'est un R. Or, on nous raconte que le premier couple humain, quand il fut chassé du paradis, cette peau transparente, qui n'était pas une peau, mais qui était de la lumière, or, se transforma en cuir opaque, qui se dit en hébreu, non pas or, mais or, avec le aïn guttural. Le aïn glottique guttural, aïn, au lieu de aleph, aïn. Aïn, Vavresh au lieu de Aleph Vavresh, les trois lettres, qui signifie la peau ou le cuir, pas transparent, opaque. Ce qui est tout de même curieux, c'est qu'en hébreu, paradoxalement, le mot qui désigne l'œil, qui est transparent, qui est la seule chose restée transparente après la chute, l'expulsion du paradis, eh bien le mot qui désigne l'œil en hébreu, paradoxalement, s'appelle Aïn, justement. C'est cette lettre Aïn, la sixième de l'alphabet, qui, dans le mot or, transforme la lumière en peau, mais qui désignant l'œil en hébreu, Aïn, c'est un œil, veut dire l'œil. C'est paradoxal, c'est encore un des charmes et des mystères de l'hébreu. Enfin bon. En tout cas, pour revenir à notre histoire, à notre Midrash, la splendeur transparente initiale du corps d'Adam et d'Ève se mue soudain en une vilaine couenne, en une couenne, si je puis dire, en une couenne épaisse. Sauf l'œil, qui paradoxalement, en hébreu, s'appelle Aïn. La même lettre qui sert à transformer notre transparence en peau, c'est celle qui désigne en nous le seul élément qui reste transparent, l'œil. Ça, c'est l'hébreu. Allez donc y comprendre quelque chose. C'est l'organe cristallin par lequel l'homme continue à boire la lumière céleste, par lequel il continue à être transparent. Il y a une autre petite exception, bizarroïde. Selon l'enseignement kabbalistique, ce sont les ongles des orteils et des doigts qui aussi restent transparents, qui ne sont pas devenus opaques. Or, les ongles et les orteils, c'est justement par là, nous enseigne la Kabbale pratique, que pénètrent dans notre chair déchue les démons impurs qui rampent la nuit sur la terre d'exil. Alors ça, c'est moins bon. Vous voyez, tout est double. Hein, la tradition est ambivalente. Et ce qui reste en nous de transparence paradisiaque, c'est l'œil. Bon. Mais c'est aussi l'œil qui voit toute l'horreur de la vie, l'horreur du monde. Et ce sont les ongles et les doigts de pied par lesquels entrent les démons, les chédim, qui rampent par terre. Bon, passons, ça c'est tout. Selon le grand historien de la Kabbale moderne, Gershon Scholem, qui a donné une interprétation personnelle de cette histoire qui m'a été rapportée par une amie commune, selon lui, donc, l'histoire de l'humanité depuis la chute d'Adam et d'Ève, donc depuis qu'ils ont été mis à la porte du paradis, cette histoire d'humanité, dit Gershon Scholem, consiste à passer de la première façon d'écrire le mot or, plutôt la deuxième, à la première. L'histoire d'humanité depuis la chute d'Adam et d'Ève, dit-il, consiste à passer de l'aïn, initiale du mot or, cuir ou peau, à l'aleph, initiale du mot or, lumière. C'est dans la mesure où nous reviendrons de notre peau opaque à travers l'histoire humaine, avec le haïn de or, jusqu'à notre peau transparente, lumineuse, or, que nous accomplirons notre vrai destin. Ainsi sera restauré un jour, dit Gershom Scholem, ainsi sera restaurée un jour la transparence du couple humain qui a été perdu après l'exclusion de l'Éden. Donc, espérons qu'à la fin des temps, Adam et Ève recouvreront leur enveloppe de pure lumière et le couple humain rédimé à la fin des temps, bénéficiant du rachat, de la rédemption, sera rendu spirituellement lucide, lumineux, comme il l'était au début, au soir du sixième jour. Il redeviendra donc ce qu'il était dans la pensée initiale du Créateur. Un œil, ou un quadruple œil transparent, où brillera la grâce. C'est là l'espoir, évidemment, de la fin des temps, l'espoir de la rédemption. Et ce sont là des choses étonnantes, n'est-ce pas? Mais ceci est une affaire de foi et de rêverie aussi. Je vous livre ces midrashim selon ce que vous pourrez en faire. Mais cette lumière qui sera de nouveau rendue à la fin des temps, dans l'intervalle nous la connaissons par éclair, par moment, ou par instance de grande révélation, par exemple. Il faut comprendre l'histoire extraordinaire de la révélation du décalogue, par exemple, au mont Sinaï, comme justement un de ces moments, comme une de ces phases où l'histoire humaine bascule, change entièrement, et avant tout l'histoire du peuple hébreu, à cause de la révélation de l'Aleph, si vous voulez. Et ceci, on le trouve, mais je n'ai pas le temps de développer ça ce soir, on le trouve dans le texte même qui décrit ou qui nous apporte la révélation du décalogue. Peut-être un mot là-dessus, peut-être, parce que je n'ai pas le temps. Les enfants d'Israël réunis au pied du mont Sinaï ont été les témoins d'une manifestation extraordinaire en 10 paroles. Ce sont les 10 commandements. Asara dibrot en hébreu. Or, selon la tradition talmudique et kabbalistique, Dieu n'a pas prononcé lui-même tous les 10 versets des 10 commandements. Il y a là diverses versions. Selon certains maîtres, il aurait prononcé simplement le début du premier commandement. Selon d'autres, encore plus radicaux, il aurait prononcé le premier mot du début du premier commandement, qui est, je vous l'ai déjà dit, Anochi, moi-même. Anochi. Et selon d'autres, encore plus radicaux, il n'aurait fait que prononcer l'Aleph, inaudible, imprononçable, sauf par lui, bien sûr, dans le tonnerre, les éclairs, la foudre et la sonnerie du chauffard. Enfin, toute cette théophanie formidable qui est décrite dans le livre de l'Exode, au chapitre du Sinaï, de la révélation au Sinaï. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier mot du premier commandement, c'est « Anochi, moi-même ».« Anochi, Adonai, Elohecha ».« Moi-même, je suis le tétragramme, enfin le Seigneur, mettons. Ton Elohim, ton Dieu. » C'est l'aleph indicible du premier mot « Anochi » qui constituerait en quelque sorte les prémices de cette épiphanie au Sinaï. Bien avant cela, dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, immédiatement après cet extraordinaire songe de l'échelle de Jacob, au chapitre 28 de la Genèse, donc bien avant l'esclavage en Égypte et loin avant la sortie d'Égypte, lorsque Dieu parle au rêveur, à Jacob, qui vient de rêver l'histoire de l'échelle, il lui dit « Anochi imach, Anochi, moi-même je suis avec toi », etc. Moi-même. Ce sont donc vraiment ce Anochi, cet Aleph semble être les prémices de l'alliance renouvelée entre Dieu et Israël. D'abord avec Jacob, le patriarche, et ensuite avec tout Israël, tout le peuple, réuni autour du mont Sinaï au moment de la sortie d'Égypte. Voilà donc concentré dans cette lettre Aleph l'essence de la révélation directe de Dieu à son peuple. C'est son unique, intime dévoilement, l'annonce de son nom dans l'Aleph d'Anochi, moi-même. Le feu, le tremblement de terre, le tonnerre, le chauffard, tout ceci fait retentir aux oreilles des enfants d'Israël ce nom, sans pareil, moi-même. Et en effet, il n'existe qu'un moi absolu dans ce monde, dans la création. Ceci mérite aussi méditation, bien sûr. Dieu seul, celui qui se dit moi-même, peut écrire vraiment la loi, la révélation, la Torah. Tout ce que nous pouvons faire, et les plus inventifs d'entre nous, c'est de transcrire et réinterpréter à neuf. Et ainsi nous maintiendrons l'écrit divin en vie parmi les hommes, sur nos lèvres, mortelles, mais vivantes, et c'est en la réinterprétant, en la redisant autrement, à travers nous-mêmes, par le midrash justement, par l'interprétation, par le drash, le commentaire, que nous la ressuscitons parmi nous, qui sommes nous-mêmes des créatures passagères. Et c'est ce qu'on appelle la Torah orale, par opposition à la Torah écrite, qui est celle de la Bible elle-même, telle qu'elle est écrite. Mais la Torah orale, c'est la vie de la Torah écrite. Elle balance comme nous au bord du gouffre. Et c'est pourtant ainsi que nous la sauvons, ce qui sauve l'Écriture sainte de l'insignifiance et de la perte dans l'oubli, c'est la fidélité de quelques amoureux, si vous voulez, qui se souviennent pas seulement de l'Aleph, non, mais avant tout du Bet, parce que la Torah commence par Bet, Bereshit, dans un commencement, Dieu créa. C'est en se souvenant de la lettre du El Bet et de tout le drame qu'elle implique que nous nous souviendrons aussi, par en dessous, de ce qui est sous le Bet, sous la maison, dans notre corps, dans la profondeur de notre âme, au point de germinal, c'est-à-dire la braise nocturne de l'Aleph silencieux qui rougeoie là-dedans. Ce même Rabbi de Bratslav a trouvé une formule merveilleuse, le Rabbi Nachman, l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, il a trouvé une formule formidable que je ne voudrais pas conclure sans vous donner cette formule par laquelle il exprime tout cela, cette expérience personnelle. Bon, comme dans la vie tragique et merveilleuse du peuple d'Israël, dans sa généralité historique, ainsi dans la tragicomédie de notre vie quotidienne, nous aussi nous connaîtrons par éclair, bref, la clarté sidérante de l'Aleph intérieur, de la présence intérieure. Et parfois, ça nous est donné gratuitement, comme ça, au cœur des angoisses qui pèsent sur notre existence terrestre. Et cette sombre lumière de gloire émane de la demeure qui est recluse en notre âme, qui est cachée en nous, dans ce lieu invisible, dont nous sommes les hôtes, dans les deux sens du mot hôte, à la fois recevant et reçu. Ainsi, nous serons introduits, selon cette formule merveilleuse du Rabbi Nachman de Bratslav, je cite maintenant, dans la chambre forte du don immérité, la chambre forte du don immérité, qui est en nous-mêmes, et en même temps qui n'est pas nous-mêmes, puisque c'est un don que nous ne méritons pas. Cette chambre forte, elle est sous-enfermée, mais quand elle s'ouvre, c'est une chambre forte, c'est-à-dire c'est une chambre où l'on trouve la force et de l'origine. Et le mouvement de la vie. Avoir confiance, se fier à Dieu, revient, je crois, à cheminer vers ce qui, en nous-mêmes, sera enfin notre lieu premier, la vraie demeure de l'Aleph, retraite en notre tréfonds. Cette demeure était là au début, elle restera là à la fin, au moment du Nigoun, qui survit quand tout le reste a disparu, dont je vous ai parlé. Cette demeure sera à la fin, quand seront écroulés les murs périssables de notre maison charnelle, de cette vieille maison, de ce baït précaire qu'est notre corps vivant en ce monde. Nous marchons donc à tâtons vers un lieu ou un non-lieu, je ne sais pas, très obscur. Mais la substance même de la nuit s'y change en rayonnement intime. Et alors nous serons vraiment chez nous, revenus à la maison, parce que de retour chez lui, dans la joie des retrouvailles, dans ce lieu-là, dans ce lieu sans lieu, que je comparerais, puisqu'on a parlé tantôt de la fête de Soukhot, de la fête des tentes, des tabernacles, la fête des cabanes, eh bien, dans ce lieu sans lieu, qui est intérieur à nous-mêmes, qui est la vraie cabane des jours de fête d'automne. L'âme, brièvement comblée, jouit d'un moment de paix, de satisfaction réelle et profonde. Fût-ce le temps d'un éclair, elle est rentrée dans son foyer, où lui, comme la rosée du matin, la douce présence du Père. Je voudrais, pour finir cela, vous lire un poème inédit encore, il paraîtra bientôt, dans la revue L'Autre, une revue parisienne, L'Autre, dans un mois ou deux. C'est un poème que j'ai écrit dans la nuit suivant immédiatement le jour de Yom Kippour de cette année-ci, 5752, c'était en octobre dernier, à Jérusalem. Un des points culminants de la liturgie synagogale du Yom Kippour, sous toutes les latitudes, vers midi, au milieu donc du Yom Kippour, du jour du grand pardon, c'est un rite de prosternation collective de tous les hommes et de toutes les femmes, donc de tous les fidèles qui sont dans la maison de prière. Et ceci se fait en souvenir d'un rite exactement semblable qui était accompli dans le temple de Jérusalem, à ce moment même, par le grand prêtre dans le Saint des Saints. C'est l'unique moment de l'année où le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints et se prosternait à terre totalement, en prononçant justement le nom du tétragramme, en criant à haute voix le nom indicible du tétragramme, enfin le nom défendu, le nom imprononçable qui est écrit en hébreu avec les quatre lettres, Yod, Hei, Vav, Hei. Et le peuple entier, dehors, sur les parvis, entendant cela, se jeter par terre, dans une prosternation parfaite, dans une annihilation de soi complète, qui est en même temps découverte de l'aleph, bien sûr, de la racine indicible de toute créature que l'on trouve dans l'humilité totale, dans la prosternation. C'est une descente des corps, si vous voulez. Et ce poème évoque cette expérience. La descente des corps. Quand je serai couché, le front contre la pierre, demain, sur les dalles de la petite maison de prière, où nous nous prosternons le corps dans la poussière, depuis 32 ans et quelques millénaires, ce matin, dans Jérusalem, encore noir de lumière, je saurai une fois de plus ce que pèsent sur ma nuque les nuages profonds du début de l'automne et quelle force de surrection s'amasse au fond du cœur pour jaillir au dehors comme un palmier en plein désert. Source d'eau vive qui chante sur un lac de lumière, colonne de rosée affûtée contre le vent de l'aube, souffle debout qui nous délivre et qui fait rire en nous l'enfant de jadis, le petit être venu de la nuit, marchant à travers le feu sur le sentier invisible vers son lieu de légèreté qui est toujours maintenant comme à l'heure de ma mort, danser sous le feuillage. Lorsque nous serons devenus chacun le prochain de son propre corps et le prochain des autres, dans le retournement simple et miraculeux de l'exil en présence, même en mourant de soif dans l'attente du jour, musique soutenue à travers le silence, les yeux remplis de larmes à l'approche du Père, et dans notre abandon délivré du désir, l'humilité nous porte plus haut que les étoiles au cœur bleu de l'abîme. Les dessinateurs se sont librement exercés à dessiner les lettres hébraïques. Il y a 1000 versions de toutes les lettres, évidemment sur un fond commun. Il faut tout de même pouvoir le lire et le reconnaître. Mais enfin, ce sont des variantes en réalité. Ce sont des variations sur. Ce sont des artistes, exactement. Ce sont des enlumineurs qui ont joué avec les alephs, comme ils ont joué avec les bêtes et les autres, à condition de garder. Il y a tout de même, vous voyez que la structure est la même. Alors, puisque vous posez la question, parce que tout ça est beaucoup plus compliqué que.
Oui.
L'aleph, dans la tradition, tel que le rabbi Nachman de Bratslav, par exemple, l'analyse dans un texte que j'ai traduit, que vous trouverez dans ce livre, traduit l'hébreu, il consiste en deux lettres yod.
Oui.
Qui est comme un doigt.
Oui.
Comme un yod supérieur, que vous voyez là, et un yod inférieur, qui a l'air drôlement. Enfin, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il lui a poussé des doigts.
Oui, oui, enfin, oui, c'est ça.
Il y a deux yods. Il y a le yod d'en haut et le yod d'en bas. Donc le yod des sphères supérieures, des sphères transcendantes, et le yod d'en bas, qui est celui qui est incarné dans l'immanence. C'est là le sens.
D'accord.
Et ils sont réunis par une barre transversale qui est un vav,
oui.
Qui est une lettre vav qui veut dire « et » en hébreu, « et », la conjonction « et ». littéralement crochet. Vav veut dire crochet aussi, puisque les lettres hébraïques n'ont pas seulement une valeur numérique, mais tout signe désigne quelque chose de précis, comme Aïn, œil. Aleph, Alouf, c'est celui qui est en tête, c'est le chef. En hébreu, un général s'appelle un Alouf. Bon, Alouf, c'est le même. Et le Vav, qui joint les deux Yod, c'est évidemment la conjonction entre le monde créateur d'en haut, entre le Yod créateur, la main divine qui crée le monde d'en haut, transcendant, et celui d'en bas. Et c'est là la signification de la structure. Donc, il joint la lettre à l'autre, joint les deux, comment dire, les deux sphères d'activité du Dieu créateur à travers le Vav, qui est le joint. Et la lettre Vav a la valeur numérique 6. Ce sont les 6 jours de la création. C'est la totalité des 6 jours du cosmos, temps et espace. Vous voyez que tout ceci est extrêmement riche. C'est bien, mais bon, il faudrait là un cours d'un an. C'est pas pour
le détail. On veut bien.
De même, c'est le rapport entre le Shabbat et les jours profanes, etc., etc. Entre la main droite et la main gauche, dans la bénédiction sacerdotale. Tout ceci est lié, n'est-ce pas? Il y a une tradition extrêmement riche, mais vraiment, je ne pourrais pas rentrer là-dedans.
Et là, pourquoi ces espèces de doigts? Parce que j'en ai compté 20, ça m'a beaucoup choqué.
Je ne sais pas.
Parce que 20, on retombe à 2, c'est la dualité. Pour Aleph,
Cela annonce peut-être le bête, les deux, la dualité, le 20, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre, moi je n'ai jamais étudié cet Aleph-là. Hein. L'autre me suffit.
Merci, oui, à moi aussi.
Il y a une floraison d'interprétation et aussi de variation sur les lettres. Je vous en prie.
Monsieur.
Oui.
La lettre, ça ne parle pas.
Non, il est la bouche ouverte.
Il a une voie de vibratoire particulier.
Non, même pas. Même pas. Il est, au fond, il est le potentiel de la parole. Et en ce sens, il est en rapport avec le Créateur, qui est avant toute parole, qui est avant toute parole. Il n'est même pas, non, il ne vibre même pas. Il n'est même pas comme dans les traditions orientales, le homme, ou, enfin, non, même pas. Il est encore plus silencieux que ça. Dans ce monde-ci, il est simplement l'ouverture de la bouche. Il est le gosier ouvert, il a le potentiel pur. L'espérance aussi, bien sûr, et le pouvoir futur. Il est futurible, il est entièrement futur, comme le tétragramme lui-même signifie un futur.